Alors, j'ai choisi pour ce soir de parler de la prière, parce que évidemment c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Aussi parce que je me suis dit, notre prière est vraisemblablement le reflet de notre vie tout entière, notre vie chrétienne, je veux dire. Et probablement vous serez d'accord avec moi si je dis que la prière est la chose la plus simple qui existe, puisqu'un enfant peut prier, quelqu'un qui ne sait pas lire peut prier. Donc c'est une chose très simple de dire merci, demander pardon. Et en même temps, si je dis que c'est la chose la plus difficile, je crois que vous me comprendrez aussi, parce que c'est très rare les chrétiens qui ont une vie de prière sans combat, sans difficulté, sans tentation de s'arrêter dès qu'on a mis le genou par terre, parce que les choses à faire nous attendent et on est pressé d'aller nous y mettre. Voilà. Et donc la prière est la chose la plus simple et la plus difficile. Et à certains égards, c'est un test de notre vie chrétienne. Et donc, si un prédicateur veut humilier une assemblée, quelquefois, il part de la prière. Voilà. Mais ce n'est pas mon but. Ce n'est pas mon but. Mon but est de vous encourager et de m'encourager moi-même. Et j'espère que ce sera le cas. Et je voudrais, avant de vous inviter à lire une première lecture, poser cette question. Est-ce que Dieu entend toutes les prières? Voilà. Est-ce que Dieu entend toutes les prières? Je pense qu'on peut dire que oui. Dieu entend toutes les prières. Est-ce que Dieu écoute toutes les prières? Est-ce que Dieu écoute toutes les prières? Donc je fais intervenir une subtilité de langue française, hein, entre entendre et écouter. Eh bien, il semble que non. Voilà. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui peut nous rendre sensibles à la manière avec laquelle on s'approche de Dieu, on s'exprime devant lui. Oui, Dieu entend toutes les prières, mais il ne les écoute pas toutes. Et je lis cela dans la première lettre de Jean, au chapitre 5. Et je lirai simplement les deux versets 14 et 15. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et donc il y a une condition. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour vous, mais c'est comme ça. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, quelque chose qui est conforme à ce qu'il désire qu'on demande à ce moment-là, eh bien nous savons, nous sommes sûrs qu'il nous écoute. Et Jean ajoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et donc on voit que l'écoute que Dieu accorde à une prière, c'est son approbation. C'est un amen. C'est comme si Dieu disait amen à notre prière. Nous, on dit amen à nos prières en général, souvent aux prières de nos frères et de nos sœurs. Mais est-ce que Dieu peut dire amen à ma prière? Voilà, on pourrait dire la question est là. Avant d'aller plus loin, je voudrais citer un poète. Paul a cité un poète à Athènes, donc je peux bien citer un poète aussi, hein. Et en l'occurrence, François de Malherbe. François de Malherbe est un poème quasiment contemporain de la Réforme quand même, donc c'est intéressant de l'entendre. Et en 1599, il a écrit un très beau poème, connu par ceux qui s'intéressent à la littérature française, qui s'appelle « Consolation à Monsieur Dupérier pour la mort de sa fille ». C'est un très beau poème, notamment qui a été dit magnifiquement par Gérard Philippe, l'homme de théâtre Gérard Philippe. Et je vais lire les deux derniers quatrains de ce poème. Donc, « Consolation à Monsieur Dupérier pour la mort de sa fille ». La mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse crier. De murmurer contre elle et perdre patience, il est mal à propos. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous mette en repos. Évidemment, c'est ce dernier vers qui a retenu mon attention. Donc je vais le redire, peut-être que je vais le redire plusieurs fois au cours de ce message, parce que si nous retenions ce vers-là, eh bien nous aurions retenu non seulement la prédication de ce soir, mais je pense une grande partie de l'enseignement de l'Écriture tout entière. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. Voilà. C'est pas très difficile à retenir, n'est-ce pas ? Je le redis encore une fois, vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. Et je suis reconnaissant à François de Malherbe d'avoir mis cette pensée dans ce bel alexandrin. Et maintenant, je voudrais illustrer cette vérité qui nous est rappelée avec quelques versets, deux versets en fait, du psaume 139. Donc le psaume 139, c'est un beau psaume de David, que nous lisons volontiers, je pense, hein, ce psaume où il est dit « Seigneur, où irai-je loin de ta face ? Où irai-je loin de ton esprit ? Si je vais à l'extrémité des cieux, là aussi ta main me conduira. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Je vais lire le premier verset. Le premier verset. Au chef des chantres de David, psaume. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Et je vais lire, non pas le dernier, mais l'avant-dernier verset de ce psaume. Donc le verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » On connaît ces paroles parce qu'il y a un chant qui l'est dit, un chant très, très beau d'ailleurs. Je vais lire le dernier verset du psaume quand même. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alors, j'étais frappé de constater la différence et la similitude entre le premier verset et en gros le dernier, l'avant-dernier verset de ce psaume. Premier verset, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Il y a deux verbes, « sonder » et « connaître ». C'est Dieu qui est le sujet de ce verbe. « Tu me sondes et tu me connais. » C'est une affirmation. Le croyant, là, comment on pourrait dire, son désir, sa volonté n'est pas mentionné. Dieu le sonde et le connaît. « Je suis ton enfant, je suis ton serviteur, tu me sondes et tu me connais. » C'est-à-dire que je le veuille ou que je ne le veuille pas, tu me sondes et tu me connais. Que j'y pense ou que je n'y pense pas, tu me sondes et tu me connais. Rien n'est caché de ma vie. Et le psaume se poursuit en disant « Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu connais tout de moi, la parole n'est pas sur ma bouche que déjà éternel, tu la connais entièrement. » Et donc c'est un psaume de grande intimité, comme on en trouve évidemment d'autres. Jésus reprend un petit peu cette pensée en disant « Mais Dieu connaît ce qu'on va lui dire avant même que nous le disions. Hein, » Donc ne prions pas comme les païens. Dieu entend leurs prières, mais ce n'est pas sûr qu'il écoute leurs prières. Et Jésus va ensuite nous citer, nous dire les paroles magnifiques du Notre Père. Voilà. La prière, c'est une prière. « Tu me sondes et tu me connais » commence par une affirmation. « Voilà ce que tu fais, Seigneur. Voilà ce que tu es. Voilà ton regard sur moi. Voilà ce que tu opères. » J'encourage à commencer nos prières par des affirmations. Éternel, tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Éternel, tu connais le nombre des étoiles et tu connais aussi le nombre de cheveux de ma tête. Éternel, tu sais ce que je suis en train de vivre en ce moment et toi, tu es au-dessus de toutes choses, mais tu connais les sentiments de mon cœur. Éternel, c'est toi qui as délivré ton peuple du pays d'Égypte, qui l'a fait passer au travers de la mer Rouge et l'a conduit dans le désert, pourvoyant à ses besoins chaque jour. Éternel, c'est toi qui as envoyé Jésus-Christ au temps marqué, qui a donné sa vie pour les pécheurs, dont je suis le premier. Enfin voilà, ce n'est pas très difficile. Dire cela relie évidemment ce que Dieu nous a révélé dans sa parole et ce que nous allons lui dire dans notre prière ici et maintenant. Et c'est pourquoi il est utile de lire l'Écriture, de la connaître, et ensuite de la redire en prière, en priant, de redire les paroles de Dieu après Dieu, en les lui adressant avec les mots que nous retenons, que nous choisissons. Voilà. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Ça inscrit notre foi sur des réalités que Dieu nous a révélées lui-même. C'est un bon moyen de ne pas tâtonner indéfiniment, de ne pas s'égarer dans nos sentiments comme nous pouvons le faire si souvent. L'âme s'égare si facilement. Mais quand elle s'appuie sur ce que Dieu dit dans sa parole, elle s'égare beaucoup moins. Et c'est, on va faire exprès de s'égarer, n'est-ce pas? Voilà. Dans le psaume, alors c'est une recommandation que je fais, commencer notre prière par des affirmations. Mais David lui-même ne fait pas cela toujours. Le psaume 13 commence ainsi, « Pourquoi, Seigneur, m'oublies-tu sans cesse? Pourquoi ai-je continuellement des chagrins dans mon cœur ?» Donc on a le droit d'exprimer les sentiments de notre cœur spontanément, quand cela est nécessaire, n'est-ce pas? Parce qu'en ouvrant notre cœur, eh bien, on s'ouvre aussi à la parole de Dieu. Et ce psaume 13, qui contient trois versets, dans son troisième verset, dit « Je te loue parce que tu m'as fait du bien ». Et donc, ce n'était pas une erreur de commencer en disant « Éternel, pourquoi ?» Même Jésus a dit « Pourquoi ?» Voilà. Et quand Jésus prie à Gethsémané, il dit « Éternel, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe ?» On pourrait dire là, Denis a dit « Il n'a jamais péché, mais il a été tenté. » Jésus a été tenté là. C'était moins deux, on pourrait dire, que Jésus dise « Eh bien, Seigneur, on va remettre cette épreuve à plus tard. » pour le cas où elle pourrait être évacuée. Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. C'est incroyable que Jésus ait dit cela, n'est-ce pas? Toutefois, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Vous comprenez? Donc il a pas, on a le droit de tâtonner. On a le droit de tâtonner. Il suffit de ne pas s'installer, de ne pas prendre plaisir dans le tâtonnement, de ne pas le cultiver exprès, indéfiniment, mais de revenir le plus tôt possible sur le terrain que Dieu approuve, n'est-ce pas? On pourrait dire dans les sentiers de la justice, là où Dieu peut dire amen à son serviteur, à sa servante, quand bien même ce serviteur et cette servante sont désemparés, et que l'approbation de Dieu nous rejoigne bien vite, n'est-ce pas? Bientôt, le plus tôt possible. Donc, David, dans ce psaume 139, commence par une affirmation, je recommande de faire pareil, et il emploie ces deux verbes, « Tu me sondes et tu me connais ». Et à la fin de ce psaume, après avoir exprimé beaucoup de choses, il dit, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Voilà, si vous voulez, le thème, le support de ma prédication. Vous l'avez compris, David demande à la fin de sa prière ce que Dieu fait déjà. Il demande ce que Dieu veut. La prière de David correspond à la prière de Dieu. David dit « Amen » à ce que Dieu est en train de faire pour lui. Et Dieu pourra dire « Amen » à la prière que David est en train d'exprimer. Comment Dieu pourrait ne pas dire « Amen » à un chrétien, un croyant, qui lui dit « Sonde-moi et connais mon cœur ». Vous voyez, le feu vert, la porte ouverte pour que toutes les dimensions de la vie soient ouvertes à la pensée de Dieu, à la lumière de Dieu, à la volonté de Dieu, à l'autorité de Dieu, à la direction de Dieu. Comment Dieu ne dira pas « Amen » à une prière qu'il a inspirée? Comment Dieu ne dira-t-il pas « Amen » à une prière qu'il a lui-même inspirée? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Tu me sondes et tu me connais. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous mette en repos. Je vais illustrer cela avec deux, trois personnages de l'Écriture qui nous sont présentés, bien sûr. Et je voudrais illustrer ce que je viens de rappeler cet après-midi en évoquant la prière merveilleuse, étonnante d'Abraham, le père des croyants, prière que l'on trouve dans Genèse chapitre 18, quand Abraham va intercéder pour la ville de Sodome. Sodome. Est-ce que c'était l'idée d'Abraham d'intercéder pour Sodome? La réponse est non. Dieu avait un fardeau pour Sodome. Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Le texte le dit. C'est pas moi qui imagine cela. Le texte dit, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Le cri contre Sodome s'est élevé jusqu'à moi, car son péché est énorme. Donc c'est l'affaire de Dieu, on pourrait dire. Abraham, peut-être, a des nouvelles de ce qui se passe à Sodome, mais c'est même pas sûr, on n'en sait rien. Toujours dit qu'il n'est pas dit qu'Abraham se souciait de Sodome, mais Dieu avait un souci pour Sodome, et plus qu'un souci, une irritation qu'il ne pouvait plus contenir, si je peux me permettre. Cependant, Dieu ne détruit pas une ville comme on écrase une mouche. Excusez-moi, l'image n'est pas très belle, mais c'est comme ça. Voilà. Et quand Dieu dit encore 40 jours et Ninive sera détruite, Dieu espère dans son cœur que la ville va se repentir, et la ville va se repentir. Voilà. Jonas ne comprendra pas, mais Dieu dira, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, une ville païenne? Comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où vivent plus de 400 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre? Dieu a un souci avec Sodome, et Dieu cherche un intercesseur. L'intercession, frères et sœurs, c'est mystérieux, et je serais bien en peine de l'expliquer comme on explique quelque chose de simple. Toujours est-il qu'il faut un intercesseur entre Dieu et la terre. Et actuellement, en ce moment même, là, pendant que je parle, pendant que vous écoutez, Jésus-Christ intercède pour nous. Et notre salut dépend de l'intercession constante de Jésus autant que de sa mort sur la croix. Et dans son intercession, en ce moment même, jour après jour, instant après instant, notre avocat auprès du Père fait valoir ses mérites en notre faveur, et c'est notre salut. Donc, cette image-là, enfin, ce n'est pas une image, cette réalité, nous montre combien l'intercession est importante, bien que mystérieuse. Et nous-mêmes, nous sommes aussi appelés à intercéder. Le faisons-nous? Comment le faisons-nous? Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Si, par exemple, on me présente la photo de 10 petits garçons qui sont au Burkina Faso ou au Nigeria, en disant, il faut que tu pries pour un de ces garçons. Pour lequel vais-je prier? Pour celui qui me ressemble? Pour celui qui est le plus mignon? Ou pour celui pour qui Dieu me demande d'intercéder? Vous voyez, je parle de cela pour montrer le risque qu'il y a d'avoir une intercession conduite par nos sentiments, nos affections naturelles. Je vais intercéder pour cette personne parce qu'elle est vraiment sympathique, elle est gentille, pourquoi pas? Mais est-ce que la pensée de Dieu correspond exactement à cela? Je connais une personne qui au moins deux fois a été appelée à intercéder pour des personnes qu'elle ne connaissait pas et dont le nom est venu dans sa pensée. Pour dire que l'intercession est quelque chose de mystérieux, et c'est Dieu qui suscite l'intercession. En tout cas, dans le cas de Sodome et d'Abraham, c'est très clair. Et Abraham est réceptif à la pensée de Dieu, et Abraham se présente devant Dieu, et Abraham va intercéder pour Sodome. Et intercéder, c'est lutter quelque part, comme un avocat lutte contre celui qui détient la sentence, n'est-ce pas? L'avocat lutte en s'associant, en s'assimilant avec le coupable, ce que Jésus a fait pour nous. Et Abraham, non pas de son propre chef, mais parce que Dieu le lui demande, parce que Dieu met ce fardeau sur son cœur, Abraham s'approprie ce fardeau et va se présenter devant Dieu avec ces paroles extraordinaires dont vous vous souvenez, bien sûr, hein, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Eh bien, c'est la pensée de Dieu, frères et sœurs, qui s'exprime au travers de la bouche d'Abraham. Dieu a besoin de quelqu'un sur la terre qui exprime, évidemment, une pensée personnelle, sincère, mais qui exprime la pensée même de Dieu. S'il y avait 50 justes, Dieu désirait épargner la ville. Entre parenthèses, Abraham ne commence pas par plaider, mais il ne commence pas par une demande, il commence aussi par une affirmation. Exactement comme David le fait dans le psaume 139. Toi, Dieu, tu es juste. Tu ne punis pas l'innocent avec le coupable. Loin de toi de punir l'innocent avec le coupable. Vous voyez, il affirme ce qu'il sait déjà de Dieu. Il prend Dieu au mot. Et la parole de Dieu est faite pour cela, frères et sœurs. Tu n'es pas un Dieu qui punit le coupable avec l'innocent. Alors, et il ose dire s'il y a 50 justes, est-ce que tu détruiras la ville? Et Dieu dit non. Et il comprend qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il comprend que peut-être il n'y aura que 40 justes, et peut-être que 30, et peut-être que 20. Et il comprend qu'il faut encore faire un pas de plus. Et il dit, ne t'irrite pas contre moi, après ça je m'arrête. Mais maintenant, s'il manque encore 10 justes à ces 20, et s'il n'y a que 10 justes à Sodome, est-ce que tu détruiras la ville? Et Dieu dit, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Et à ce moment-là, Abraham comprend qu'il faut s'arrêter. Et il se retire, et Dieu se retire. Et Abraham a prié selon Dieu. Et je ne sais pas si je suis autorisé à dire cela comme cela, mais je vais le dire quand même. En un sens, c'est Dieu qui a prié à travers de la bouche d'Abraham. C'est le cri de Dieu qui s'exprime par son serviteur. Mais Dieu a besoin de quelqu'un comme un vis-à-vis pour plaider contre lui. Pour plaider devant lui, dirais-je plutôt. Alors, cet exemple, pour moi, est très parlant et montre que ce n'est pas l'initiative n'est pas à l'homme en fonction de ses sentiments, de ses désirs seulement. Bien sûr, Abraham s'est emparé du désir que Dieu a mis sur son cœur. Mais l'initiative, le fardeau, la pensée première et la foi pour le vivre sont venus de Dieu. En l'occurrence, il n'y avait pas 10 justes. Et on pourrait dire tout cela pour cela. Mais ce n'était pas l'affaire d'Abraham. C'était entre Dieu et la ville. Et c'était entre Dieu et Lot. Et Dieu est venu chercher Lot in extremis, de justesse. Pour rappeler cela, ça nous parle des temps que nous vivons et des temps derniers qui approchent, n'est-ce pas? Dépêche-toi de sortir, car bientôt ce sera trop tard. Et il le presse de tout abandonner et de partir sans retard. Voilà des passages de l'Ancien Testament qui nous instruisent beaucoup, n'est-ce pas? On pourrait dire que c'est Dieu lui-même qui prie. Et on pourrait rappeler là cette parole de Paul dans l'Épître aux Romains qui dit « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » C'est étonnant, n'est-ce pas? Alors on prie quand même. Et souvent on tâtonne, et on a le droit de tâtonner, comme je l'ai dit, mais puisse notre tâtonnement être secouru pour rejoindre la prière que Dieu inspire. Parce que la prière que Dieu inspire, c'est la prière que Dieu écoute. La prière que Dieu écoute, c'est la prière que Dieu exauce. Et on a le droit de tâtonner, mais on a aussi le droit ou le privilège d'être secouru et conduit. Et dans ce passage de Romains 8, Paul dit, mais l'Esprit qui connaît la pensée de Dieu intercède dans notre propre cœur par des soupirs inexprimables, et c'est selon lui que nous prions, selon Dieu. Voilà. Et donc, la prière que Dieu exauce est la prière que Dieu écoute, comme Jean le disait tout à l'heure, et la prière que Dieu écoute, c'est la prière que Dieu inspire. Et donc, il y a une disposition à l'écoute, à la réceptivité et à la foi pour recevoir la parole qu'il nous faut exprimer devant Dieu, quelle qu'elle soit. Même le « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus avait le droit de la dire. Hein. David avait dit cela avant lui. Et là aussi, Jésus prit une prière qu'il a lue dans l'Écriture et il a fait sienne. Et donc, il avait le droit de dire « pourquoi m'as-tu abandonné ?» alors même que, de mon point de vue, il n'était pas abandonné. Oui. Voilà. Mais après, il dira « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et donc il n'est pas resté dans ce sentiment d'obscurité et il est mort dans la foi, on ne lui a pas ôté sa vie, il l'a donnée pour accomplir notre rédemption. Jésus a vécu cela, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne, vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous mette en repos. Je voudrais donner deux autres illustrations, sans être long, deux autres illustrations de prières des prières exaucées, mais sur deux modes très différents, vous allez voir. Le premier exemple que je veux évoquer est celui de Saul de Tarse. Saul de Tarse, juif, croyant, zélé, pharisien, instruit, persécuteur des chrétiens. Il redira plusieurs fois comme témoignage, en s'humiliant, « J'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ, j'ai persécuté Jésus-Christ lui-même au travers de ses disciples. » Et Saul, évidemment, priait, parce qu'un juif, ça prie. Et un pharisien, ça prie. Et donc, il priait. Je ne sais pas comment il priait, mais il priait, c'est sûr et certain. Une chose certaine, c'est que Saul priait. Cependant, il faisait sa propre volonté. Donc là, vos oreilles vont teinter, je ne sais pas comment, mais moi, je sais ce que je veux dire par là. On peut prier et faire sa propre volonté. Et dans ma vie de chrétien, j'ai rencontré des chrétiens qui priaient beaucoup, peut-être plus que moi, mais qui faisaient que des bêtises. Et donc la prière n'est pas... La prière peut être un exercice qui s'égare, disons-le, comme cela. La prière peut être un exercice qui s'égare. Et si Jean dit, si nous prions selon sa volonté, ça veut dire qu'on peut prier en dehors de la volonté de Dieu. Et Paul n'avait pas besoin de Dieu, entre parenthèses, il avait les pouvoirs qu'il fallait pour accomplir sa propre volonté, qui consistait à éradiquer de la surface de la terre l'Église de Jésus-Christ naissante. Et par ses pouvoirs, il a fait arrêter des chrétiens, il les a liés, il a même assisté à la lapidation d'Étienne, et là il était encore en train de parvenir à ses fins, si on peut dire, avec les pouvoirs qu'il détenait de supplicier et d'intimider les chrétiens avec cette idée que bientôt on n'en parlerait plus. Et il avait cette idée, cette conviction, entre parenthèses, une conviction ne veut pas dire qu'on a raison. Vous le saviez déjà, mais je vous le rappelle aujourd'hui. Je suis convaincu, peut-être tu es convaincu, mais tu peux te tromper en étant convaincu, n'est-ce pas? Il vaut mieux dire « je ne sais pas » que de dire « je suis convaincu » et se tromper. Si je ne sais pas, au moins, on n'est pas en train de tricher, de mentir. Mais Paul était convaincu, il priait, il faisait sa volonté, il allait contre la volonté de Dieu, et Dieu a dû le mettre par terre, un peu brutalement apparemment. Et suite à cette chute, cette cabriole, j'allais dire, mais ce n'était pas rigolo du tout, eh bien, il est resté 3 jours et 3 nuits, sans boire et sans manger, conduit comme un petit enfant. Ça, ce n'est pas anodin, évidemment. Hein. Conduit comme un petit enfant. Et on dit à Saul, je ne sais plus qui le dit, un ange ou c'est Jésus, va dans la ville, virgule, et on te dira ce que tu dois faire. C'est intéressant, hein. Voilà. On te dira, c'est même pas qui, on te dira ce que tu dois faire. Donc pendant 3 jours, tu vas rester sans boire et sans manger, tu vas être faible comme un brin d'herbe, et on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez un petit peu l'apprentissage, hein, l'école par laquelle Saul passe. Pardon. Et puis, au bout de 3 jours, Dieu dit, je vais appeler Ananias. Et donc Dieu va voir Ananias, qui est réceptif, et à qui Dieu dit, tu vas aller chez Saul, et tu vas lui imposer les mains. Et Ananias dit à Saul, mais c'est un persécuteur. Dieu dit, je sais, mais quand même tu vas y aller, car il prie. Et c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les grands de la terre. Et là, ces 3 petits mots, car il prie, nous font vraiment percevoir que, enfin, Paul commence à prier, c'est-à-dire à être intéressé par la volonté de Dieu, qui n'est pas forcément la sienne, et à écouter ce que Dieu va lui dire pour rentrer à son service et être un disciple, être un serviteur. Va voir Saul, car il prie. Il priait déjà, mais Dieu dit, enfin, il prie. Enfin, il écoute. Enfin, il va comprendre. Enfin, il va être un instrument dans ma main. Enfin, il va être mon serviteur. Enfin, ma volonté commence à trouver place dans sa vie. Alors, voilà. Pour moi, c'est un exemple remarquable qu'on peut prier sans prier. On peut prier sans écouter. On peut prier en étant rempli de sa volonté. On peut prier en sachant à l'avance ce qu'on désire vraiment, et ce qu'on désire, c'est ce qu'on va faire, quoi que Dieu en pense. Et on peut prier en ayant compris que la volonté de Dieu est dans tous les cas meilleure que la nôtre, et que c'est celle-là qui est désirable, comme le dit le psaume 119, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or ou d'argent. » Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. Donc Saul priait sans écouter, et donc sa prière était vaine, c'est une prière pour rien, prière trompeuse. Voilà, évidemment que Dieu nous délivre des prières trompeuses, évidemment. Et maintenant, je voudrais évoquer en un instant le fils prodigue. Le fils prodigue, alors je ne vais pas raconter toute l'histoire du fils prodigue, parce que chacun de nous, je pense, là, dans sa pensée, le fils prodigue, qui après avoir dépensé son argent, se retrouve démuni, désemparé, tout seul, en bout de course, avec les pourceaux. Pour un juif, il y avait mieux comme situation, évidemment. Il ne pouvait même pas manger ce dont se nourrissaient les pourceaux. Et là, dans cette solitude, dans cet inconfort, dans cette abdication de tout son être, cette absence de ressources humaines, et, il est dit, étant entré en lui-même, il n'est pas dit qu'il a prié. C'est ce qui est étonnant dans ce passage. Il est dit, étant entré en lui-même, ça veut dire qu'il était en dehors de lui-même. Déjà, c'est intéressant pour la prière. Hein. Si on est en dehors de soi-même, c'est difficile pour Dieu de nous conduire quelque part, de nous faire entendre sa voix. Étant entré en lui-même, il se dit. C'est étonnant parce que dans ce passage, il n'est pas dit que le fils prodigue prie. Et il n'est pas dit que Dieu lui parle. Il est dit qu'étant entré en lui-même, il se dit. Combien de serviteurs chez mon père ont de la nourriture en abondance? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et s'étant dit cela, il se lève et il y va. Et son père l'attend devant la maison. Et une grande fête va se préparer, plus belle que celle de ce soir. Et donc, on voit là que, sans qu'il soit mention de prière, n'est-ce pas, ni que Dieu ait dit quoi que ce soit, on voit que dans le cœur de ce jeune homme égaré, la voix de Dieu se fait entendre, et non seulement elle se fait entendre, mais elle est écoutée. C'est-à-dire que le fils prodigue écoute la voix qui lui dit « Ta place est chez ton père, tu t'humilies maintenant et tu y vas ». Et comment on sait que le fils prodigue a écouté? Il s'est levé et il y est allé. Comment on sait qu'on écoute ce que Dieu nous dit quand on se lève et qu'on le fait? Vous comprenez? Quand on ne fait qu'entendre, ça veut dire qu'on reste sur place. Ève n'a pas qu'entendu le tentateur, elle l'a écouté. Parce qu'elle a fait ce qu'il lui a dit. Voilà. La chèvre de M. Seguin a entendu la voix qu'il appelait, mais elle est restée sur place. Elle n'a pas écouté. Vous comprenez la différence entre écouter et entendre seulement? Voilà. Le fils prodigue a écouté la voix de Dieu et il a été ipso facto remis sur la voie juste, la voie de la justice. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. C'est Dieu qui le fait, n'est-ce pas? C'est Dieu qui le fait. Eh bien, la prière que Dieu exauce, c'est la prière que Dieu inspire. Hein, et je pense que nous pouvons faire cette expérience de prier la prière que Dieu désire entendre de notre bouche. Et si ce n'est pas au bout de 3 minutes, ça peut être au bout de 5 minutes, on ne va pas calculer du tout le temps, ça peut être en un instant, ça peut être au bout d'un temps plus long et fastidieux, peu importe, Dieu ne se trompe pas avec nous, et Dieu peut mettre dans notre cœur, si nous nous laissons incliner par lui, comme un roseau se laisse incliner par la main d'un homme, eh bien, nous pouvons demander à Dieu ce que Dieu désire que nous demandions. Et si nous demandons à Dieu ce qu'il veut que nous demandions, nous savons que Dieu dit Amen. Nous savons que nous avons ce que nous avons demandé, parce que nous avons prié selon sa volonté. Jésus, je vais terminer ainsi, Jésus dit cela avec d'autres mots, et c'est intéressant de connaître, de voir dans l'Écriture la même pensée dite avec des mots différents. Jésus dit, si vous demeurez en moi, et si je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Et donc on retrouve une condition. Ce n'est pas un mérite. Il n'y a jamais de mérite, n'est-ce pas? Mais il y a des conditions. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, de justice. et sa grâce ne peut pas nier sa justice, évidemment. Si vous demeurez en moi, et si je demeure en vous, ce n'est pas un exploit à accomplir, c'est une condition d'appartenance et de soumission et de foi. Si vous demeurez en moi, si vous ne vous échappez pas de moi, si vous restez là où je suis, si vous demeurez en moi, que Dieu nous montre ce que cela veut dire, n'est-ce pas ? Et le repas de la scène va nous le rappeler à sa manière. Et si je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, ça veut dire votre volonté sera accordée à celle de Jésus-Christ, qui était accordée à celle de son Père, n'est-ce pas ? C'est la règle de l'accord. Si deux s'accordent, cette chose leur sera accordée, la règle de l'accord, la règle de l'amen, n'est-ce pas ? Je dis amen à ce que Dieu veut. Et si je dis amen à ce que Dieu veut, Dieu dit amen à ce que je veux. N'est-ce pas ? Et le « en Christ » résume évidemment la vie de prière et la vie chrétienne et la marche d'obéissance et la foi, tout simplement. En Christ, le lieu d'où notre prière doit partir pour atteindre Dieu, c'est en Christ, tout simplement. Et donc, quand nous prions, venons à Christ, tout simplement, si je puis dire. Venons à Christ, demeurons en Christ, laissons ce qui n'est pas de Christ. Installons-nous, demeurons, comment le dire mieux qu'avec le verbe demeurer ? Demeurons en Christ et après demandons ce que Dieu, ce que Jésus, par son esprit, nous demande de demeurer, ce que Jésus lui-même demanderait s'il était là en cet instant. Et le Saint-Esprit va rendre cela possible. Parce que ce n'est pas un exploit, c'est une grâce. C'est Dieu lui-même qui l'accomplit. C'est Dieu lui-même qui l'accomplit au travers de nous. Et nous sommes ses témoins. Puissions-nous le vivre dans la foi. Amen. On va chanter.